Oui, alors je voudrais donner mon opinion au sujet du programme de Mermès. Il n'a pas besoin de nous dire qu'il est un homme de gauche. Mais pourquoi est-ce qu'il s'acharne à monter les gens les uns contre les autres? Les gens sont assez envieux, sincères. Voilà, c'est lamentable, mais c'est comme ça. Voilà.
Alors, j'écoutais l'émission là tout de suite, là. Bon, c'est vachement génial ce qu'elle a fait, la fille, là, de prendre une action. Parce que c'est le seul moyen d'approcher, l'Assemblée Générale, d'approcher le patron et de poser des questions, et il se doit de lui répondre. Ça, c'est, alors là, c'est génial. Hein. Elle a peut-être dépensé 118 euros, mais elle va les regagner largement, parce qu'il lui doit une réponse. Hein. D'autre part, cette fille qui habite le Nord, je lui conseille fortement de rester dans le Nord, parce que moi, je suis un ancien du Nord, et ça fait 40 ans maintenant que j'habite dans le Sud, et à part le soleil et le Mistral, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Alors, qu'elle reste dans le Nord, on s'y amuse bien plus, et c'est bien plus chaleureux. Voilà tout ce que j'avais à dire.
Salut Daniel, Emmanuel Carcassonne. Alors comme vous vous en doutez, je viens d'écouter votre très intéressante émission sur ce cher monsieur Bernard Arnault et ses petits actionnaires, tout petits actionnaires. Et quand je constate vraiment que ce cher monsieur gagne, comme vous l'avez dit, 13 000 euros par heure, soit 312 000 euros par jour, environ 115 millions d'euros par an, et 750 millions de francs, si on convertit en francs, par an, et qu'on sait que sur l'année 2008, si on taxait mensuellement à hauteur de seulement 10% les 40 plus grosses fortunes françaises, ça suffirait pour combler le déficit de la Sécu, pour construire tous les logements sociaux nécessaires dans ce pays, augmenter le SMIC à 1500 euros net par mois, tiens, ça vous rappelle peut-être quelque chose, et puis aligner dessus les bas salaires, évidemment, ainsi que terminer l'ensemble des lignes à grande vitesse manquant entre Tours et Bordeaux et entre Bordeaux et Perpignan. Donc voilà, pendant que M. Sarkozy nous propose un bouclier fiscal qui, encore une fois, va être favorable aux plus riches, des franchises de soins qui sont la porte ouverte à une médecine à deux vitesses, des heures supplémentaires favorables au patronat, défiscalisées, et puis en sous-main et de manière larvée la suppression de l'ISF, tout ça me met la rate au courbouillon. Voilà. Salut Daniel, bon courage pour vos émissions et merci encore.
Merci de donner la parole à ces femmes aux mains et au cœur d'or. Je suis styliste, modéliste et couturière. Et oui, depuis 10 ans, c'est de plus en plus difficile de trouver des unités de confection en France. Le métier se perd et c'est trop révoltant. Je résiste contre vents et marées, comme elles. Mais jusqu'à quand? Alors, que faire? C'était Gabriel.
Aïe, 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 on a passé vraiment une nuit blanche, tous, l'équipe de là-bas, si j'y suis, mais aussi nos innombrables AMG, auditeurs modestes et géniaux, nous sommes demandés toute la nuit, Bernard rencontrera-t-il Marie-Hélène? Marie-Hélène rencontrera-t-elle Bernard? Car elle, en tout cas, c'est son rêve. Elle veut lui parler. Mais lui, Bernard, il est distant, peut-être timide, en tous les cas, il est très réservé. Alors elle s'est dit, comment lui parler? Alors elle a eu une idée, comme Bernard est un homme d'affaires, et que là, il y avait une assemblée d'actionnaires, importante assemblée d'actionnaires, et bien pour le rencontrer, Marie-Hélène a acheté une action. Et oui, c'est possible, une simple action qui lui a coûté 110 euros, je crois, à peu près. Et ce qui va lui permettre d'assister à cette assemblée des actionnaires et de lui poser une question. Enfin, de parler avec Bernard. Alors, elle n'est pas venue seule. Marie-Hélène, elle s'appelle Marie-Hélène Bourlard. Elle est venue avec toutes ses consoeurs et ses camarades de l'entreprise ECCE, une entreprise située à Poix du Nord, dans le Nord, comme l'indiquait cet auditeur nordiste, anti-sudiste. Elles sont de là-bas, toutes ces dames. Je dis toutes ces dames parce que c'est une entreprise de confection de vêtements de luxe, luxe Kenzo, Givenchy, et qui sont des marques de LVMH, c'est-à-dire le groupe que préside Bernard. Alors, c'est une sous-traitance, bien évidemment. Vous connaissez ce système d'écran qui permet de dire mais c'est pas nous qui donnons les ordres, c'est pas nous qui délocalisons, c'est pas nous qui virons, etc. C'est une combine un peu grosse maintenant. On connaît bien les ficelles et elles sont au carreau. Il y a pas mal de chances qu'elles se retrouvent sur le carreau d'ici à la fin de cette année, mais elles se battront jusqu'au bout. Elles sont les dernières petites mains d'une confection de luxe, et bien sûr que elles sont menacées par le système de délocalisation. Alors elles se battent, et donc elles sont venues à cette assemblée des actionnaires où 1500, 2000 actionnaires de LVMH sont réunis, comme c'est le cas chaque année. Mais il faut savoir que chaque actionnaire a le droit de poser une question, et à chaque question posée, il doit y avoir une réponse aussi. C'est dans la légalité la plus grande qu'elles sont parties. Une centaine d'ouvrières, donc de Poix du Nord, sont venues en autocar jusqu'à Paris, au carrousel du Louvre, pour assister à cette assemblée des actionnaires. Mais, bien sûr, il n'y en a qu'une qui rentrera. C'est Marie-Hélène Bourlard, ainsi que Madame Chorton, Madeleine, qui, elle, est également une déléguée syndicale de la Samaritaine, parce que la Samaritaine subit le même sort, et elles vont essayer de poser la question à la direction, la super direction. Donc, elles arrivent. C'est le deuxième épisode aujourd'hui. Arrivera-t-elle, Marie-Hélène, à parler avec Bernard? Auparavant, on espère que ça va bien se passer, qu'on va en savoir plus. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Monsieur Fillon, on n'a pas la liberté de travailler plus. C'est pas nous qui décidons de travailler comme on veut dans une entreprise. J'avais des collègues qui, ils venaient travailler des fois le matin ou l'après-midi, mais ça n'a pas duré, ils ont été foutus à la porte. Parce qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut dans une entreprise. C'est le chef d'entreprise qui décide, c'est pas nous. Allons. Alors le mot liberté, là, je viens d'entendre dans votre programme, en espérant que vous ayez pas trop de députés à l'Assemblée nationale. Oui, on verra bien. On travaille déjà assez. On est les premiers en productivité. Et voilà le problème, on n'est pas augmenté. Et ça, vous le savez. Il nous manque les 10% du PIB qui nous ont été enlevés. C'est ça l'anomalie. C'est pas travailler plus, c'est de partager le travail.
Aujourd'hui se tenait au Havre le grand rassemblement républicain de Nicolas Sarkozy. Ce grand rassemblement républicain brassait des populations d'horizons variés, des retraités couvertes de bijoux venus en BMW, des jeunes cadres à la voix grave venus en Mercedes, des jeunes filles allées de rayons UV venues en 4x4. Bref, toute la République était ici présente. Afin de manifester notre contentement de vivre dans un si beau pays, d'être gouverné par un président si républicain, nous avons écrit notre fierté sur une longue banderole, fier d'être Grolandais. Au moment de la sortir, et de rajouter quelques bouts de scotch nécessaires, nous vîmes que nos voisins ne partageaient pas cette fierté. Un brouhaha s'éleva autour de nous, et quelques paroles d'encouragement fusèrent venant d'une jeune fille. « Viens, viens, on va les dénoncer. » Alors nous comprîmes que nous n'appartenions pas au même pays. Tant pis, pensions-nous, montrons à la France l'attachement que lui portent ses voisins grolandais. Plus que de l'indifférence, nous avons éprouvé alors de la haine raciste. 5 gorilles nous ont déchiré notre banderole et jeté dehors, refusant même de nous restituer nos affaires personnelles laissées à l'entrée. Le tout, bien sûr, loin de la presse. Grolandais, grolandaises, pouvons-nous tolérer cet affront diplomatique?
On attend toujours Monsieur Bernard Arnault.
Bernard Arnault, nous voilà.
Monsieur Arnault,
n'oubliez pas que maintenant je suis actionnaire.
Ah ouais.
Et votre banquier, il a dit quoi quand vous êtes allé acheter l'action?
Elle m'a regardé tout bizarrement. Elle me dit une action, mais vous ne voulez pas plus? J'ai dit non, une. Elle dit c'est pas votre genre acheter des actions. Bah, j'ai dit il faut changer dans la vie. Hein. Maintenant je vais être actionnaire.
C'est Daniel Mermès, c'est la basse et j'y suis avec Pascal Le Pascariello et François Ruffin, l'Assemblée des actionnaires.
Flight number 2, arriving from.
Ouais. Non, Marie-Hélène, là, on est, c'est les deux quarts qui se suivent.
Oui, et ils sont plats. Nous sommes une centaine.
Attends, aujourd'hui, ils veulent fermer notre usine de poids du Nord. Ils nous virent sans pitié, mais nous, on y croit encore.
Alors, notre opération aujourd'hui, nous allons au Palais du Louvre. Oh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. LVMH, qui est notre donneur d'ordre à ECCE, et c'est quand même, c'est lui qui décide où on fabrique les costumes que nous fabriquons encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la journée des actionnaires et ils se rassemblent au Palais du Louvre dans une salle. Donc il y aura sûrement Bernard Arnault.
On attend toujours Monsieur Bernard Arnault.
Donc moi, comme j'ai une convocation, je vais rentrer à la période et je vais essayer, je dis bien essayer, d'inviter Bernard Arnault et ses actionnaires de sortir. D'abord, on va se faire entendre. J'espère que vous crierez toutes vos forces. Enfin, pas maintenant, quand on va être devant la porte. Hein? On ne veut pas aller en Roumanie, ni en Pologne. Donc, on a travaillé là des années et on veut rester là.
Stop! Pourquoi vous lui fermez la porte? Cette dame est actionnaire.
C'est je suis actionnaire,
vous,
moi.
Vous fermez la porte.
Attendez, je suis actionnaire. J'ai quand même le droit d'être à l'intérieur. Allez-y. Attendez. Allez-y. Je ne veux pas que vous bousculer, monsieur. Je suis actionnaire. N'oubliez pas de
venir. Allô, François. Elle rentre en dernier. Elle est fermée parce qu'on a innové les banderoles, mais elle est là. Voilà, elle est à l'intérieur. Bon, à tout à l'heure.
Et voilà. Mais vous pouvez faire la même chose, hein. Ah oui, si vous voulez assister à une assemblée d'actionnaires, c'est formidable, une assemblée d'actionnaires. Des gens assis, qui roupillent, bedonnants, tout contents. Les rentiers, vous savez, des romans du 19e, ben les voilà, les revoilà. Les petits bourgeois, mais oui. On est méchants, mais c'est, on a envie. Hein. On a envie, comme disait cet auditeur, ça me met la rate au courbouillon. Ma maman disait ça, ça me met la rate au courbouillon. On comprend quand même, là, il y a des moments. Oh, bien sûr, on comprend aussi le petit actionnaire. Les petites économies, on dit, ce serait dommage que ça pourrisse dans un bas de laine. Alors, on va placer ça quelque part en espérant que, ben oui, qu'est-ce que c'est? Voilà, l'écureuil, les noisettes, on s'y est mis, quoi. Est-ce que les dindons ne seraient pas aussi, parfois, les actionnaires dans cette farce qui, quand même, parfois, a des couleurs de drame, la rate au courbouillon ou l'Assemblée des actionnaires. Là-bas, c'est juste fini jusqu'à 16h.
On attend toujours Monsieur Bernard Arnault. Monsieur Arnault.
Alors, si vous voulez bien, maintenant, voilà le premier clip des questions qui ont été réunies par notre service de communication auprès de nos actionnaires.
Les trois quarts d'entre vous mettent en avant la stratégie du groupe comme le centre d'intérêt majeur de l'Assemblée. L'année 2006 a confirmé l'excellente vitalité des grandes marques qui ont contribué de se renforcer et de gagner des parts de marché. Mais se demandent nombre d'entre vous, quelles sont les marques stars montantes de LVMH qui vont assurer des relais de croissance pour demain? Des interrogations également sur le portefeuille de marques. Quelles sont les réussites, mais aussi les déceptions? Comment se présente l'évolution et le positionnement de Donna Karan? Autre question que vous suggérez sur ce thème, quelles sont les régions du monde où le groupe pense pouvoir accélérer sa croissance? Quelles sont les ambitions de LVMH sur les nouveaux marchés émergents, comme la Chine, l'Inde et l'Europe de l'Est? Comment évolue la part de marché du groupe sur ces régions? Le réseau de vente suscite aussi des interrogations. Quels sont les objectifs et les projets pour DFS et Sephora? comment progressent les commandes via Internet. Enfin, vous vous demandez quels sont les projets de croissance externe de LVMH. Le groupe songe-t-il à des projets de rapprochement avec d'autres domaines du luxe ?
On est dans le hall avant d'entrer dans l'Assemblée Générale des Actionnaires. On nous a remis un petit boîtier pour voter. On nous invite à aller nous inscrire au Club des Actionnaires qui propose des réductions, des avantages sur les produits LVMH. Sur quels produits, sur des parfums, sur du maquillage, sur des bouteilles de mousseux. On peut même aller faire des séjours en province et aller déguster du cognac à meilleur prix. Là, dans l'équipe, on est tous devenus des petits actionnaires. On a investi dans LVMH. On croit en LVMH. On croit au potentiel de croissance du luxe. Une personne me l'a confié tout à l'heure. De toute façon, il n'y a pas à s'inquiéter avec le luxe. Il y a de plus en plus de riches et ils sont de plus en plus riches.
Voilà, alors, vous avez compris que notre reporter est tombé dead. François Ruffin est tombé dead, ainsi que Pascal Pascariello. Ils sont là, mais leurs clandestins, vous ne direz pas, hein. Ah oui. Et alors, ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi, donc, Marie-Hélène Bourlard, qui rêve de parler avec Bernard Arnault. Elle est là aussi. Et il y a également Madeleine Chorton de la Samaritaine, qui est déléguée syndicale. Voilà. Et voilà la petite. Et puis, il y a également un ami qui s'appelle Bertrand. Bertrand aussi fait partie des embêtettes.
Et là, Bertrand est en train de discuter avec un actionnaire.
Vous êtes inscrit au club des actionnaires, non ?
Non ? Oui, non, mais je veux juste savoir quand est-ce qu'ils donnent les cadeaux, parce que je relais chez Vinci, moi.
C'est à la fin de l'assemblée, et c'est vers 13h.
Parce qu'il y a une époque où ils distribuaient les cadeaux avant ?
Non, jamais.
Il y en a qui distribuent Air Liquide Total distribué avant, je crois.
Non, plus Total.
Mais Air Liquide distribué avant.
Je ne sais pas ce qu'on a à la sortie. Qu'est-ce qu'on a à la sortie ? C'est la première fois que j'assiste à ça.
C'est un cadeau. C'est une bouteille de champagne. Bien, ça dépend des années. Ouais. Hein, ou leur cognac, parce qu'ils ont du cognac NC. Voilà, c'est ça.
Vous pensez que c'est pour ça ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vient, là.
Oui, oui. Si, c'est surtout pour ça. Hein. Ouais, c'est. Puis il y a un cocktail aussi. Hein, donc,
après
voilà. Ah oui. Ah bon. Il y a un cocktail où ils donnent tout leur champagne. Hein, donc.
Il y a un cocktail.
Ah, d'accord. Tu es Bernard Arnault et Antoine.
Ah, ça commence. D'accord, on va y aller.
La situation
Merci.
Alors là, on rentre dans l'Assemblée Générale des Actionnaires. C'est une salle. Ouh là là, c'est une salle immense. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Si, tout au fond de la salle.
Mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes très nombreux cette année. Je vous remercie de votre présence et je déclare l'Assemblée Générale ouverte. Je voudrais souligner la performance excellente de votre groupe en 2006 avec, comme vous l'avez vu dans les résultats, une forte croissance organique des ventes, 12% à laquelle contribuent toutes les zones géographiques et tous les métiers du groupe, puisque le résultat est en croissance à deux chiffres dans tous les secteurs d'activité. Un résultat opérationnel courant en augmentation de 16% pour l'année 2006. Une amélioration de la marge opérationnelle et un résultat net en hausse de 30%. Le groupe a encore renforcé en 2006, on peut le dire, son avance sur le marché mondial du luxe grâce au succès de nos marques phares et grâce à l'émergence d'un certain nombre de marques que nous avons développées avec un grand succès en 2006.
Voilà, on est assis presque au dernier rang dans cette salle qui est vraiment immense, immense. On est très loin, très loin. Et on voit juste un tout petit peu la tête de Bernard Arnault. Réellement, il y a des écrans le long des allées, des écrans géants le long des allées qui retremblent. On se met le discours, mais on n'entend pas tout.
Aujourd'hui, on peut dire que près de la moitié des postes en cadre sont pourvus par mobilité interne. C'est sûr que
depuis Depuis une heure au moins, Bernard Arnault tient un discours, montre des petits films, des schémas, des graphiques qui disent tous que tout va pour le mieux dans le groupe LVMH. Le dividende sera en hausse de 22%, le cours de l'action a augmenté, un résultat net qui est de plus de 2 milliards d'euros. Enfin, vraiment, tout va bien. C'est un peu ennuyeux. D'ailleurs, derrière nous, un monsieur demande à sa femme de rentrer parce qu'il s'ennuie et sa femme ne veut pas. Elle lui dit de ne pas oublier le petit cadeau à la sortie.
Ils sont derrière cette série de montées, entre France et certains pays d'Europe ou voisins de l'Europe. Est-ce que j'identifie le seul sur le marché français?
Ouais, alors c'est un peu long, hein, dans l'assemblée, les actionnaires, ils s'ennuient, ça roupille même un petit peu, c'est long, c'est très très long. Ils pensaient assister à la grande messe de la rente, et non, ils roupillent. Mais il y a quelque chose qui les réveille un petit peu, ces braillements à l'extérieur de la salle, ce sont les salariés qui risquent d'être licenciés des entreprises dépendantes de LVMH qui protestent. Alors évidemment, ça gêne l'Assemblée et on va avoir une chargée de communication qui va essayer d'engager le dialogue.
C'est pas en hurlant que vous réglerez quoi que ce soit.
Si, mais vous savez bien, si à un moment donné, vous avez un gagne-pain, hein, je sais bien, vous avez un gagne-pain, ce gagne-pain vous est enlevé. Vous savez que vous n'allez plus pouvoir nourrir vos enfants.
Je comprends, madame. Je suis mère avec quatre
enfants. Vous ne pouvez que
crier. Oui, mais ça n'est pas en criant que vous allez pouvoir régler. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Et je comprends, bien sûr.
Si à un moment donné, elle se heurte à un mur qui dit ce mur-là, c'est terminé. Il n'y a plus de travail pour vous. Il n'y a plus de travail.
Là-dedans,
regardez cette dame-là. Cette dame.
Malade,
ouais. Elle ne retrouvera pas de travail. Elle ne retrouvera pas de travail.
C'est peut-être quelque chose qui peut être négocié éventuellement avec le groupe en termes de reclassement. Il faut regarder tout ça.
C'est ce que c'est.
Mais ce n'est pas maintenant, tout de suite. Moi, je dirige la société Capitalcom qui organise l'Assemblée Générale.
D'accord. Et donc, vous êtes venu pour essayer d'expliquer
De calmer un peu, d'apaiser le climat.
Est-ce que vous pensez que c'est pas bien de hurler aux portes de l'Assemblée?
Non, je crois que c'est pas comme ça qu'on règle les conflits. On a organisé une séance de négociation avec le directeur des affaires sociales et je pense que c'est plus efficace. Ça ne peut pas se passer comme ça, malheureusement.
Pourquoi ça ne peut pas se passer comme ça? C'est effrayant.
Parce qu'on est en pleine séance d'assemblée. L'assemblée est une institution qui est privative, qui est réservée aux actionnaires. C'est juste pas possible. Ce sont des questions qu'il faut négocier au cas par cas et qu'il ne peut pas faire, en tout cas, pas dans le contexte de l'assemblée générale. C'est pas le bon contexte pour ça.
Et vous êtes, monsieur?
Non, moi, je m'occupe de l'organisation. Moi, je pense surtout aux actionnaires.
On attend toujours Monsieur Bernard Arnault. Monsieur Arnault.
Jean-Pierre Elkabbach, votre invité ce matin, le PDG de LVMH, Bernard Arnault.
Je crois qu'il reste en France un fond de culture socialo-marxiste qui a totalement disparu chez nos principaux concurrents.
À quel exemple vous pensez quand vous dites il y a un fond de pensée? Vous dites socialo-marxiste, d'ailleurs cette formule on ne l'utilise plus.
On l'utilise plus, mais quand on entend des discours où on parle de profit fainéant, où on parle de répartir la richesse alors qu'il faudrait mieux essayer de la créer, c'est ce qu'ont compris tous nos principaux concurrents. Quand on voit que l'image des entreprises françaises n'est pas bonne, quand on voit que le mot libéralisme est un mot qui est proscrit, j'étais la semaine dernière en réunion avec le président de la République italienne, Monsieur Napolitano, qui est d'origine communiste. Et il m'a dit, mais comment se fait-il qu'en France, le mot libéralisme soit à ce point tabou, alors qu'ici, en Italie, c'est au contraire un mot à la mode?
Maintenant, nous allons, avec l'ensemble des membres du comité exécutif, répondre à vos questions.
Bernard Arnault, a terminé son long speech et il a ouvert la séance des questions. Marie-Hélène Boulard et Madeleine Charton se sont immédiatement levées et elles se sont précipitées sur l'hôtesse qui leur a attribué par une pancarte qu'elle soulève là dans l'allée, le chiffre 12, mais c'est la question 3. C'est la question 3 qui est choisie.
Alors, que va-t-il se passer ? Marie-Hélène Bourlard parviendra-t-elle à poser sa question ? C'est toute la question.
C'est bon ? On sent le micro, c'est bon, là ? Bon voilà, on vient d'être reçu par le directeur des affaires sociales de l'UMH et on lui a exposé nos problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on nous envoie d'un côté comme de l'autre. Monsieur Deveau, il nous dit que c'est pas lui le responsable. Arnaud, il nous dit que c'est pas lui non plus le responsable. Alors là, on a dit, bah écoutez, nous, ce qu'on souhaite, c'est de se mettre autour d'une table, hein, le donneur d'ordre et le fabricant. Parce qu'aujourd'hui, monsieur Bernard Arnaud, il a mis en valeur la qualité de la fabrication française. Eh ben, on veut le prendre au mot. Et aujourd'hui, on est le seul site qui fabrique de la haute couture pour le masculin. Il n'y reste qu'une usine. Et on demande que l'outil de production reste en France et les 140 salariés puissent continuer à travailler. Parce que à Poix du Nord, il n'y a plus d'industrie, il n'y a rien. Si on ferme cette usine, c'est plus de 150 familles qui vont se retrouver au chômage. Alors on a demandé une table ronde avec Bernard Arnault. Le directeur des ressources humaines, il va nous répondre, on lui a laissé nos coordonnées. On a fait aussi savoir que c'est la saison touristique. Si on n'a pas une réponse positive, eh bien c'est pas ici qu'on va venir. On connaît les magasins de M. Bernard Arnault et on fera des sittings partout. S'il faut, on prendra un mois et demi, mais il n'y aura personne qui va rentrer dans ces magasins. Et là, on s'est engagé avec l'ensemble des organisations syndicales d'aller jusqu'au bout parce qu'on n'acceptera pas qu'on puisse nous virer demain sans solution. Hein, parce que les responsables, c'est les donneurs d'ordre, mais aussi les responsables, c'est l'industriel. Voilà un petit peu ce qu'on a obtenu. Et on va aller jusqu'au bout avec l'ensemble des organisations syndicales.
À l'extérieur de la salle, et le délégué syndical, vous l'avez entendu, relate l'état du dialogue social et de ce qu'ils ont pu obtenir auprès de la direction de LVMH pour essayer de sauver ses emplois, notamment ses familles, parce qu'effectivement, on dit 150 licenciés ou 150, ben, c'est 150 familles la plupart du temps. Mais pendant ce temps-là, à l'intérieur de la salle, il y a l'intérieur et l'extérieur, on retourne à l'intérieur de la salle où Marie-Hélène espère toujours enfin pouvoir poser sa question.
Dernière question, numéro 1, et bien entendu ensuite, l'équipe sera avec vous pour répondre directement aux questions pendant le cocktail.
Alors là, Marie-Hélène Bourlard et Madeleine Charton proteste auprès de l'hôtesse parce que Bernard Arnault vient d'annoncer la dernière question et qu'elles n'ont pas pu poser la leur. Or, Marie-Hélène Bourlard, qui a fait 200 km pour poser sa question à Bernard Arnault, elle proteste auprès de l'hôtesse. Non, mais c'est la dernière question. La question ne sera pas posée. Alors, Marie-Hélène Bourlard s'avance dans les allées, elle se dirige vers l'estrade. Oh la vache, c'est impressionnant là, de marcher, d'avancer comme ça vers l'estrade devant des centaines, des milliers de petits actionnaires qui sont venus pour écouter parler de leur dividende. C'est impressionnant quand même de se retrouver, d'aller au-devant chatouiller la première fortune de France, sans doute. Marie-Hélène Bourlard fonce. On découvre le premier rang. Au premier rang, devant Bernard Arnault, donc témoin du mariage de Nicolas Sarkozy. Et il y a Arnaud Lagardère, bien bronzé, qui s'est déclaré frère de Nicolas Sarkozy. Antoine Bernheim, le banquier de Lazare, qui était au Phuket le dimanche soir de la victoire de Nicolas Sarkozy.
Merci.
faire moi bénéfice pour re-signer un nouveau contrat avec ECCE pour garder la production française. Parce que c'est 147 salariés qui vont être dehors.
Même si vous utilisez une dialectique adaptée à votre fonction de syndicaliste.
Mais vous mettez dehors 147 salariés.
Et que si nous avions annulé le contrat, il n'y aurait pas eu de problème, on n'en aurait pas parlé.
Vous continuez à délocaliser dans les pays de l'Est. Il y a les 147 salariés. Je voudrais que vous les voyiez et que vous osez les voir là dehors en face. Et leur dire, je ne veux plus travailler avec vous.
Madame, il y a ici 2000 personnes qui sont venues pour entendre parler du groupe LVMH.
Est-ce que les petits actionnaires sont prêts à perdre un peu d'argent pour que 147 salariés vivent encore?
Je suis désolé des problèmes que
ça peut
poser aux personnes.
Il y a des salariés qui attendent une réponse dehors.
Je pense que le mieux, ce serait qu'on puisse se parler dehors.
On vous a déjà écrit, vous n'avez même pas la politesse de répondre.
Alors là, il y avait déjà les vigiles qui se trouvaient devant nous. Il y avait déjà les vigiles qui nous empêchaient de passer. Et là, en plus, il y a les services de la communication, les services sociaux de LVMH qui font barrage aussi, qui viennent à notre rencontre, qui viennent discuter pour nous faire sortir.
C'est votre collègue?
Ça, c'est la Samaritaine. Là aussi, on les a mis dehors. Et alors, elle a le droit, vous lui avez pris du travail.
Madame Charton est en train de, dans un face-à-face avec Bernard Arnault, sauf que Bernard Arnault a le micro et Madeleine Charton ne l'a pas. Donc d'ici on n'entend rien, on cherche à passer. Mais le vigile ne veut pas qu'on passe. On voit bien quand même à la tête de Bernard Arnault que c'est comme, un peu comme si on lui gâchait sa fête d'anniversaire. Il n'est pas content.
C'est jamais l'heure, c'est jamais l'endroit. Tout de suite, les gros bras, là. On est des salariés, mais si on est dignes. On veut du travail et rien d'autre. Et que les actionnaires s'en foutent moi dans les poches.
Pourquoi vous ne pouvez pas faire une proposition?
Vous êtes un partenaire et on va regarder.
Pourquoi vous ne permet pas de faire une proposition?
On va regarder.
Vous êtes
un partenaire d'LVMH.
Moi, j'aimerais avoir le micro pour faire une proposition. Pourquoi on ne me proposerait pas?
C'est pas dans ce contexte-là.
Pourquoi? Mais pourquoi? Attendez, mais pourquoi? Je veux dire, effectivement, pourquoi on ne peut pas proposer qu'effectivement il y ait une diminution des dividendes pour régler ce problème-là? Mais attendez, mais pourquoi on ne peut pas demander qu'il y ait une diminution des dividendes pour régler ce problème-là?
Oui, il y a une diminution des dividendes.
Mais pourquoi on ne ferait pas une proposition? Mais attendez, mais on peut faire une proposition, vous répondez, puis c'est bon, on s'en marche.
Mais ne la bousculez pas, vous, hein?
Personne ne la bouscule.
On dérange, hein? On dérange parce qu'il y a 147 chômeurs dehors et la Samaritaine aussi.
Franchement, je ne crois pas que vous faites une unité ici.
Pourquoi on ne peut pas faire une proposition? On est en face d'actionnaires. Pourquoi on ne peut pas leur faire une proposition en disant...
On est en train de passer au vote.
Mais non, mais pourquoi on peut faire une proposition? C'est pas le lieu de quoi? Le lieu de quoi? C'est une démocratie. C'est une démocratie. Non, c'est pas une démocratie, c'est quoi?
On vous propose justement que dans le cadre du dialogue social, on organise maintenant une réunion.
Mais attendez, moi je suis actionnaire, moi je suis pas salarié.
Moi
je suis actionnaire.
C'est pas possible qu'on a travaillé des années pour Kenzo, qu'on a fabriqué du haut de gamme, les petites mains, et qu'on va nous foutre dehors comme des malpropres, alors que LVMH s'en fout plein les poches.
Ça n'est pas en assemblée qu'on peut régler ce type de conflit.
Si, on pourrait proposer un 3-3.
Le cas de CCE est un cas particulier puisque vous n'êtes pas salarié du groupe, vous êtes un partenaire.
Du travail.
Vous avez Pierre-Yves Roussel qui est ici, je suis secrétaire du groupe. On peut y aller maintenant. C'est-à-dire, si vous on retourne devant les gens qui vous ont délégué.
Tout à fait. Nous sortons.
Mais on vous accompagne.
Monsieur Bernard Arnault, on se reverra.
Oui.
On va négocier.
On est poussé vers la sortie. On nous invite à sortir à la fois les vigiles et les membres du conseil de LVMH. Il y a le premier rang, il y a Antoine Bernheim notamment, au premier rang, qui applaudit notre éviction.
Donné la parole, mais je l'ai pris. Et Bernard Arnault, il m'a écouté. Il m'a pas répondu. Ça, c'est sûr. Parce que tout ça, s'il n'y a pas l'habitude de voir ça. Croyez-moi que la copine de la Samaritaine et votre délégué CGT a intervenu. Nous, tout ce qu'on veut, c'est revoir le contrat. Donc, il y a le responsable ici. C'est monsieur...
Sanchez. Vous m'entendez?
Non.
Faut que j'appuie sur le bouton.
Voilà. Au revoir, vous n'avez pas l'habitude.
Ah,
allez-y.
Je manifeste assez rarement. Je viens de recevoir une délégation. Arrêtez ça, je vais parler fort. Je viens de recevoir 5 personnes qui ont été désignées. Je crois que ces personnes sont par là. Voilà.
On a discuté. Je suis désolé, je n'avais pas prévu d'avoir un micro.
Nous non plus, on n'a pas eu de micro et on a été obligé d'élever la voix. Voilà. Nous non plus, on ne nous a pas donné le micro.
Donc, nous ne vous attendions pas spécialement. Je vous reçois parce qu'il est normal que vous soyez reçu. J'ai rencontré cette délégation de 5 personnes qui vous représentent, qui m'a rappelé la situation dans laquelle vous êtes, les difficultés, le plan social, ce que vous contestez, ce que vous comprenez, que vous ne comprenez pas, qui vous paraît incompréhensible.
Il faut revenir sur des productions françaises, monsieur. C'est notre survie à Poix du Nord.
Madame, on me l'a dit et j'ai bien compris le message. Des incompréhensions que vous perceviez entre les uns, les autres et d'une situation que vous ne pouvez pas comprendre.
Nous comprenons très bien que LVMH veut s'en foutre plein les poches. Et ça, on ne l'accepte pas.
Je ne peux pas. Attendez. Une situation que vous ne compreniez pas, qui ne vous semblait pas logique et sur lesquelles vos représentants ont dit qu'ils souhaitaient qu'il y ait une table ronde intégrant les représentants des salariés, les représentants de LVMH, les représentants de votre entreprise, de CCE, les élus locaux. J'ai entendu cette demande. Je me suis engagé à faire remonter le message aujourd'hui même à la direction générale du groupe LVMH. J'espère que nous pourrons, avec les uns et les autres, sortir de cette situation.
D'ici 15 jours, par exemple, vous allez leur donner une réponse.
D'ici 15 jours. Ça me paraît possible, oui.
Dans les 15 jours. Parce qu'on se reverra, monsieur. On vous laissera pas comme ça. Hein. Donnez un tract à monsieur Bernard Arnault.
Je vous souhaite un bon retour.
Alors voilà ce qui s'est passé. Mais ensuite, les actionnaires sont sortis de la salle au bout de cette comment on va appeler ça, un psychodrame, un petit drame, un petit trouble, des petits moustiques qui sont venus troubler une séance paisible. Attention, il y a des moustiques qui vous collent le palu.
Il y a les actionnaires qui sortent avec leurs petits cadeaux roses, c'est-à-dire du champagne moite et chandon, une petite bouteille de champagne moite et chandon. Devant, il y a une banderole, il y a une haie qui s'est formée avec les salariés et des tracts qui sont distribués aux actionnaires qui sortent. Une banderole est marquée ECCE, LVMH, Fossoyeur, d'emploi.
C'est deux mondes différents qui se côtoient. Ah non, t'en vivais pas, je suis pas de ni de l'un ni de l'autre.
Vous êtes d'un monde quand même.
J'ai la préfecture.
Vous êtes à la préfecture.
Oui.
Échange une petite bouteille de Perrier, quand une petite bouteille de Mouette et Chambon. Échange une petite bouteille de Perrier, comme une bouteille de Mouette et Chambon.
Qu'est-ce que vous voulez faire, madame?
Je veux échanger ma bouteille de Perrier contre leur bouteille de Mouette et Chambon. Ils sont plein d'argent, vous allez pas me dire qu'ils peuvent pas me faire ce petit échantillon, non?
C'est normal, les travailleurs sont au Perrier et les actionnaires au Mouette
et Chandon. Voilà. Monsieur, vous voulez pas faire un échange? C'est une pièce de collection, hein. Ça vient d'un militant de la CGT, il y en aura bientôt plus.
Vas-y, discute avec un actionnaire. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe?
C'est lamentable. Pour quelle raison? Parce que c'est pas fait pour ça. S'ils ont des réclamations qui les fassent par la voie hiérarchique. Moi, je ne suis pas patron, mais si j'étais patron, une demande comme ça, on va tout le monde promener.
Mais si par la voie hiérarchique, ça ne marche pas?
Eh bien, on quitte la boîte. On n'est pas content. Si tout le monde s'en va, ils seront bien embêtés. Ils ne sont pas contents de leur patron qu'ils en changent.
Vous avez changé souvent de boîte, monsieur?
Pardon?
Vous avez changé souvent d'entreprise?
4 fois.
Et vous avez retrouvé du boulot facilement derrière?
Quoi?
Vous avez retrouvé du boulot facilement derrière?
Oui, parce que j'ai des diplômes, je suis qualifié.
Et quand on n'a pas de diplôme et qu'on n'est pas qualifié, c'est moins facile?
Alors, c'est moins facile, mais on trouve quand même. Mais quand on fait ça, on ne trouve pas.
C'est vraiment déconseillé sur le marché de l'emploi, ce genre de comportement.
Absolument.
Comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui, l'Assemblée, qui était un peu mouvementée, je crois?
Elle a été mouvementée à la fin, et j'ai été... pas très agréablement surprise par la réaction ni de la salle, ni du président, qui ont pour moi exprimé un mépris fondamental. Ben, il y a eu intrusion de cette personne. Elle a revendiqué. Elle a dit que LVMH lâchait 147 personnes sur le carreau. Et Bernard Arnault avait une réponse très simple qu'il a donnée pendant l'Assemblée, qui était « on aurait très bien pu laisser tomber ce fournisseur, comme ça on n'en aurait pas parlé dans la presse ». On a continué à lui faire confiance, on a donc sauvé cette entreprise. Et on a enchaîné les votes les uns sur les autres en ne faisant plus attention à sa présence et tout le monde était fort content dans l'Assemblée. Ça, j'ai été très gênée. Je ne connaissais pas ce dessous-là, je l'ai découvert aujourd'hui.
Vous n'allez pas vendre pour autant vos actions à LVMH ?
Non, non, ce sont les bonnes actions, ce serait dommage de les vendre. Mais il y en aura d'autres que je vendrai avant de vendre les LVMH, hein, c'est vrai, malheureusement.
Et vous, vous faites quelle profession ?
Bah, malheureusement, je suis sans emploi. Et arrêtée, je ne pourrais plus travailler, pour l'invalidité. Donc quand elle a dit « vous ne connaissez pas les gens dans le besoin », il y a des gens dans le besoin. Ah si, 460 euros par mois, je pense que ça s'appelle être dans le besoin. Ça sont mes revenus.
Et oui, on trouve ça aussi, des gens comme ça, parmi les actionnaires. Sans doute assez peu, mais on en trouve quand même. Et n'oubliez pas, il s'agit de petits actionnaires, ne pas confondre. C'est comme les petits patrons et les grands patrons. Il y a des petits actionnaires et des gros actionnaires. Voilà encore quelques-unes de leurs réactions à la suite des scènes que nous venons de vivre.
Trêve à votre sentiment simplement. Je suis élue.
Oui, bah c'est très bien.
Je suis élue, je vous demande continuez. Ce que vous en pensez de mettre 147 familles. Brisez 147 familles. 147 mamans sans travail.
Oui.
Qu'est-ce que c'est vous très en bien. Pensez, monsieur ?
Eh bien, je trouve que c'est très bien. Il n'avait qu'à se démerder avant.
Démerder, mais c'est elles qui ont produit la richesse. C'est leur travail avec leurs mains, ce sont des petites
mains. Madame, ça fait 40 ans que les ouvriers...
Elles travaillent très
bien. Ça fait 40 ans que les ouvriers se laissent massacrer, piétiner et n'ont rien fait.
Mais vous n'auriez pas voulu baisser votre dividende de 0,01% et que
la
ça...
question n'est pas là. La question, c'est que les ouvriers se laissent marcher sur les pieds depuis des années et des années et qui ne bougent pas et qui sont contents de voir des gens qui ne foutent rien et qui s'en mettent dans les poches.
Mais c'est pas vous qui les piétinez des fois ? On engrange des dividendes quand on licencie et qu'on délocalise ?
Non, ceci est un autre problème.
Non, mais c'est vrai, l'action augmente.
Ceci est un autre problème. Ils sont 145, là, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 40 ans ? Rien. Ils ont absorbé, ils se sont contentés de ce qu'on leur disait, de ce qu'on leur donnait. Et puis voilà. Et puis ils ont essayé surtout d'en faire le moins possible, parce que de toute façon, pour ce qu'ils sont payés, ils en font le moins.
Et vous, quand Bernard Arnault augmente sa fortune de 3 milliards d'euros l'an dernier et qu'on délocalise, vous ne trouvez pas que c'est un peu Bernard Arnault qui les piétine ?
Ben bien sûr que si. Et alors, où est le problème ? C'est pas en faisant ça, hein ? Certainement pas. Il ne faut pas rendre les gens, mon vieux. Il faut les pendre.
Il faut pendre Bernard Arnault ?
Ben, Entre autres.
Vous êtes un actionnaire radical, vous ?
Je ne suis pas un actionnaire radical. Je suis un actionnaire simplement. Simplement un actionnaire qui regarde qui se fait piétiner et qui s'enrichit ou qui piétine les autres. Eh bien, c'est simple. Il y a les exploiteurs et les exploités. C'est tout. Il faut choisir dans quel camp on veut se mettre.
Donc vous avez choisi d'être dans le camp des exploiteurs ?
Des exploités, mon vieux.
Ah bon ? Mais vous êtes actionnaire, quand même.
Et alors, eh ben, en tant qu'actionnaire, je suis exploité, puisque je suis un actionnaire minoritaire. Là, il y a eu des votes, parce que vous ne savez pas grand-chose. Il y a des votes. Tous les gens qui étaient là, ils peuvent toujours voter contre. 95% sont dans les mains de 3 mecs. Point, terminé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, si on n'est pas d'accord, il faut les prendre.
Et vous, seriez prêt à ça ?
Bien sûr, je fus prêt à ça.
Bonne journée, monsieur.
C'est l'extrême gauche qui fait ça.
Vous croyez ?
Oui, bien sûr. C'est parce que M. Bernard Arnault est copain avec Sarkozy. C'est scandaleux. C'est scandaleux. On va avoir de plus en plus de mouvements de ce genre. Et c'est la démocratie qui est en jeu.
Là, la démocratie actionnariale, surtout, qui est menacée ?
Non, pas la démocratie actionnariale, la démocratie tout court. Parce qu'en France, on ne peut pas être de droite. On ne peut pas prôner le travail, prôner tout ce qui concerne, je dirais, le courage. Moi, j'ai 64 ans, je continue à travailler parce que je trouve que c'est normal.
Mais ces personnes-là, elles voulaient justement continuer à travailler.
Oui, mais bon, ça fait partie, je dirais, malheureusement, de la mondialisation. Ça me scandalise tellement que je trouve, je suis un vieil actionnaire de LVMH, il ne s'est jamais passé quoi que ce soit chez LVMH. Ils sont venus pour faire le bazar.
Monsieur, qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe là?
Qu'est-ce que vous voulez faire pour être compétitif en Europe? Il faut supprimer certains emplois. Et surtout, quand les emplois vieillissent, il faut les mettre à la retraite. Moi, j'ai été mis en pré-retraite à 55 ans. Et il a fallu que je m'occupe pour passer mon temps. Dans les 79, qu'est-ce que vous voulez faire?
Vous pensez que c'est la fatalité?
C'est pas la fatalité, c'est la concurrence. Il faut quand même qu'on puisse tenir le rang. Il n'y aura plus d'emplois. Sans compter quand on voit comment les gens se comportent devant le buffet, on a écœuré. Hein.
C'est-à-dire comment ils se comportent devant le buffet?
Ils se comportent comme s'ils étaient au Biafra. Vous avez entendu parler du Biafra. Ils étaient au Biafra et c'est incroyable. Et les femmes pires que les hommes, d'ailleurs.
Les actionnaires, là, à l'intérieur?
C'est tous des actionnaires, évidemment. C'est tous des actionnaires. Pour entrer là-bas, il faut être actionnaire.
Hein. Et vous, du coup, vous n'avez pas mangé dans le cocktail?
Mais non, mais j'ai pas mangé. Je viens pas pour manger. Je viens pour l'assemblée, quand même. Mais c'est un chat. J'ai connu des assemblées il y a 20 ans où on ne se disputait pas et on prenait du champagne et c'était plus agréable. Mais là, depuis que les assemblées se sont démocratisées, ça devient insupportable. Et je vous avoue franchement, les femmes de Neuilly sont les plus fortes. Hein.
Les femmes de
Neuilly sont les plus fortes.
Les plus fortes à se ruer sur les
buffets. Dans le buffet, sont imbattables. Hein.
Comment vous reconnaissez?
Je me rappelle ma femme venait pour voir le bouquet de fleurs, elle n'arrivait plus à voir le bouquet de fleurs. Alors elle ne vient plus et puis elle est morte depuis.
Comment vous savez qu'elles viennent de Neuilly?
Non, mais c'est toutes les assemblées, c'est la même chose. Moi, je viens en principe pour voir les questions qui sont posées. Mais c'est le buffet qui devient odieux. Hein.
Vous inquiétez, là, pour le cours de votre action, avec ce qui s'est passé ce matin?
Absolument pas.
Donc, si on délocalise, on sait que les bénéfices augmentent, c'est ça aussi?
Oui.
147 mères de famille ont leur famille brisée, plus d'emplois, plus de revenus.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez,
c'est
monsieur?
C'est un bon produit, le champagne.
Oui. Oui, mais
elles
savent travailler, elles font des belles choses.
Vous dites que vous les représentez. Vous avez une bande avec bleu, blanc, rouge.
Eh bien,
je ne sais
oui,
pas qui vous êtes.
C'est le signe des élus. Je suis une élue d'une des communes.
Vous
là
dites
où se
que
situe...
vous êtes une élue.
Mais enfin,
mais
monsieur,
j'en ai pas
vous
la
avez
preuve.
Les papiers.
Mais j'en ai pas la preuve,
mais
madame.
Où est la
vous êtes dans la rue.
Bon, alors, mais vous pouvez quand même me donner mon... Monsieur.
Mais ce n'est pas une preuve que vous êtes élue.
Les actionnaires de Airbus ont refusé leurs dividendes pour les donner aux salariés. Est-ce que vous pensez que les actionnaires de LVMH seraient capables de faire la même chose?
Mais okay. Les actionnaires de LVMH n'ont rien à voir avec cette délocalisation.
Bon. Ils sont odieux, odieux. Il n'y a pas de sentiment, il y a le porte-monnaie, il y a le portefeuille, c'est... Enfin, bon sang, quand on vous explique qu'il y a 147 femmes qui ont un savoir-faire qu'on va jeter à la rue, ça ne peut pas laisser indifférent. Moi, je ne crois plus en rien.
Monsieur, s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas des gens qui mettent de l'argent pour créer des entreprises, vous n'avez pas de travail.
On est d'accord.
La France en meurt.
On est d'accord. Après, dites un petit peu, quand elles sont payées 1 000 euros par mois, vous trouvez que c'est encore trop?
Mais je n'ai pas dit ça, madame.
Alors?
Et alors après, on critique après. Que les vilains actionnaires...
Que les actionnaires aient un retour sur investissement, c'est normal également. Mais c'est normal aussi que les employés, elles aient un retour.
Je voudrais vous demander si vous avez voté oui à Maastricht.
On n'en est plus là,
moi,
Maastricht.
J'ai voté non.
Moi, j'ai voté non aux deux.
Et ben, j'ai voté moi aussi, voilà. Et donc, moi, je peux me permettre parce que j'étais
aussi,
contre Mitterrand et j'étais contre Maastricht. Vous en crevez. C'est la mondialisation, on a ouvert nos frontières, on a ouvert nos portes, et on ne peut plus revenir en arrière, et je plains nos descendants. Que ça soit les vieux comme nous, les retraités, on va petit à petit leur diminuer les
absolument.
Retraites, et les enfants...
Et la protection sociale, madame.
Eh bien, il n'y en aura plus, malheureusement, c'est pas que je le désire, madame.
Non, mais
vous avez entendu, j'ai deux enfants, j'ai un fils au chômage qui a 45 ans,
donc
il ne touche plus
c'est.
Rien.
Donc il sait
et
ce que
c'est. Nous qui finançons.
Donc,
et
ce
alors qu'il pouvait toucher le RMI...
Il veut un travail, votre fils.
Eh bien, il n'en trouve plus parce qu'il a 45 ans. Alors, madame, donc,
45 ans, quand même.
Et il a deux enfants. Et
vous vous rendez compte? Donc, vous êtes... Vous aussi, vous souffrez de ça.
Il faut que le cheval ait beaucoup d'avoine pour que les moineaux aient du bon crottin. Ainsi parlait un certain Rockefeller, et on voit que le message est arrivé dans certains esprits. C'était un reportage de Pascal Lopez-Cariello et François Ruffin. Merci à Madeleine Charton et aux licenciés de la Samaritaine, à Marie-Hélène Bourlard et aux ouvrières de CCE à Poix du Nord. Merci à Bertrand Rotté ainsi qu'à Monsieur Baudou, maire d'Aulnoy, Emery. Il nous reste encore quelques instants pour se mettre ceci dans les oreilles.
En 33e étage, la vue est si belle, je me sens pousser des ailes. Au 38e étage, c'est vraiment génial, celle-là, direction générale. Au 34e étage, ils sont à Tillon, c'est le contrôle de gestion. Au 36e étage, ils sont pas peu fiers, celle-là, direction financière. Dans ma grosse boîte, l'air est un peu moite, l'hôtesse adorable du ciel éjectable. 33e étage, c'est déjà pas mal pour mon âge. Au 28e étage, faut un bon piston, c'est là. Communication. Au 35e étage, la clim est en rade, 35 degrés centigrades. Au 29e étage, sur eux tu peux compter, c'est la comptabilité. Et au 2e étage, c'est les moins que rien, c'est le service entretien. Dans ma grosse boîte, l'air est un peu moite, l'hôtesse adorable, les sièges éjectables. 33e étage, c'est déjà pas mal pour mon âge. Mais depuis qu'on se fait racheter par la tour d'à côté, j'ai du mal à motiver. L'assistante du DRH me mate d'un air bravache, mais depuis qu'on a couché, je peux plus rien lui demander. Entre cadres, quand on discute, c'est pour savoir si l'action chute et combien on peut toucher comme indemnité.
Waiting for Nana. Merci à tous. C'était Ignatius, le morceau qu'on vient d'entendre. À lire, Portrait de l'homme d'affaires en prédateur par Michel Villette et Catherine Vuillermo aux éditions de la Découverte. L'ange exterminateur par Héry Routier aux éditions Albin Michel. Et d'autre part, selon Charlotte, il y a un festival itinérance qui débute aujourd'hui au Voûte, dans le 13e à Paris. De nombreux films documentaires expositions autour des thèmes de l'exil et des migrations seront présentés. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette charmante émission, modeste et géniale, ainsi que sur le site non officiel de là-bas si j'y suis, là-bas.org, où vous pouvez réécouter la série d'entretiens avec Noam Chomsky. C'est disponible, vous avez un millier, je crois, de numéros de là-bas si j'y suis sur ce site. À la technique aujourd'hui, Fabrice Desmaz et Ronan Mahé. Il va arriver, Bernard. c'est Yann Chouquet et Coyenne Guyenne qui ont réalisé cette émission à cité de Charlotte Perry. Et Christophe Imbert s'occupe du répondeur où vous pouvez laisser un message au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.